le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant ce dimanche matin sur France Culture. Aujourd'hui, nous recevons Gérald Machabert, pasteur de l'Église protestante unie de France à Lyon, pour la presse régionale protestante. Et il nous emmène aux abords de la ville de Naïn, où Jésus croise un convoi funéraire. C'est un épisode de la vie de Jésus qui nous est raconté dans l'évangile de Luc.
Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout.
Quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. C'est ce que disent les paroles de ce cantique du 19e siècle. Et c'est ce que je vous souhaite, chers auditeurs, ce matin. Quelle que soit la météo au dehors, pluvieuse, venteuse, nuageuse, ou tout au contraire ensoleillée et accompagnée d'une douce brise, que cette journée qui commence pour vous puisse être éclairée et illuminée de l'intérieur d'un beau soleil qui brille dans votre âme. Oui, chers auditeurs, habitués de ces ondes matinales ou passagers clandestins de cette émission, qu'un beau soleil brille dans votre âme, qu'il éclaire et illumine tout. La grâce et la paix de Dieu nous sont données par lui gratuitement, sans paiement ou mérite de notre part. Que sa grâce et sa paix viennent nous habiter pour ce temps de célébration que nous allons passer ensemble, pour la journée qui s'ouvre devant nous, avec ses projets et ses rencontres, et pour notre vie, tout simplement. Ce matin, c'est l'évangile selon Luc qui nous accompagnera. L'œuvre de Luc, c'est l'évangile qui porte son nom et le livre des Actes qui lui fait suite. Luc présente cette œuvre comme le résultat d'une recherche méticuleuse. Dédiant cette œuvre en deux parties à Théophile, son destinataire, il écrit « Cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. À mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début. Et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. » La tradition de l'Église présente Luc comme étant un médecin. Il y a fort à parier qu'il a su appliquer son savoir et sa précision à la recherche qu'il a effectuée sur ce qui était rapporté de la vie et du ministère de Jésus, ainsi que sur les débuts de l'Église naissante. Pourtant, le texte que nous allons entendre ensemble a de quoi questionner nos esprits qui aimeraient s'appuyer sur de la rigueur scientifique. Comme l'apôtre Thomas, nous aimerions bénéficier de preuves pour croire. Si je ne vois les marques de la crucifixion, je ne peux croire que le Christ est vivant. Seigneur, au moment d'entendre le témoignage de Luc, aide-nous à laisser de côté notre attente débordante. Que nous ne cherchions pas dans les mots de l'évangéliste ce que nous aimerions y entendre, y trouver, de quoi justifier nos choix et nos décisions. Aide-nous à laisser ta parole être ce qu'elle doit être, ta parole tout simplement, une parole dans la chair du monde, une parole de l'en haut fécondant l'en bas, une parole qui fait ce qu'elle dit, qui est ce qu'elle fait. Lecture de l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, les versets 11 à 17. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il s'approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit, il fut ému par elle, et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Dans nos journaux, les annonces de décès éludent souvent la réalité de la mort. On dit du défunt qu'il s'en est allé, qu'il nous a quittés, qu'il est parti, qu'il a disparu. Même lorsque la famille affiche un fond chrétien dans l'annonce qu'elle fait publier, elle élude cette réalité brutale. On dit alors qu'il s'est endormi dans la paix du Seigneur ou qu'il a rejoint la maison du Père. Pourtant, nous savons tous, pour avoir été confrontés à la mort de nos proches, que la réalité de la mort est infiniment plus brutale. Avant toute chose, la mort est un néant qui s'ouvre sous nos pieds. C'est même le néant par excellence. Pour le pasteur et théologien Laurent Gagnebin, la mort est même un double néant. Le néant de ne plus être, bien sûr, mais aussi le néant de ne pas savoir. La réalité brutale de la mort est aussi celle-ci. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, nul ne peut en décider totalement les circonstances, nul ne sait ce qui l'attend. Cette réalité brutale est ce qui fait écrire à Simone de Beauvoir que la mort est une violence indue. Rien ne justifie que notre vie puisse s'achever dans ce double néant. L'évangéliste Luc, lui, ne prend pas de pincettes pour évoquer cette mort. Alors que Jésus est suivi par une foule qu'on imagine joyeuse et pleine de reconnaissance, puisqu'il vient de guérir le serviteur d'un officier romain, son cortège vient heurter un autre cortège aux abords de la ville de Naïn, une procession funéraire. On pourrait presque visualiser la scène comme les images d'un film, travelling sur une foule en marche, joyeuse et pourquoi pas dansante, et d'un coup, la caméra se fige, comme dans un mur, cette foule joyeuse et dansante vient rencontrer une autre foule, immobile, abattue, dans le deuil. La réalité brutale de la mort est aussi rendue par l'anonymat des protagonistes de cette histoire. Le néant qui vient de les frapper leur a ôté jusqu'à leur identité. Aucun ne porte un nom. Le mort n'est même plus que cela, un mort. Et même sa mère n'est plus désignée que parce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'est plus. Mère d'un fils unique, aujourd'hui mort, et veuve. Partageons ce texte que Jean de Bruyne a intitulé tout simplement « L'autre » pour évoquer cette expérience de la mort. Mourir nous laisse sans expérience humaine de la mort. C'est que la mort supprime la condition même de toute expérience. Devant la mort, même le vieillard ne peut plus dire « de mon temps ». Il est aussi inexpérimenté qu'un nouveau-né. La mort n'est donc toujours que la mort de l'autre. Nous ne mourons, pour ainsi dire, que par personne interposée. C'est toujours sur l'autre que nous imaginons les représentations de notre propre mort. L'une des dimensions de la mort, c'est justement qu'elle emporte tout. Non seulement la personne du défunt, mais tout ce qui faisait sa vie, y compris ses relations. La mort n'est donc toujours que la mort de l'autre, selon ce texte de Jean de Bruyne. Mais inversement, la mort de l'autre est aussi la mienne, dans une certaine mesure. Alors que j'étais quelqu'un, entre autres, par ma relation à l'autre, sa mort vient amputer mon identité de ce qu'il n'est plus. C'est particulièrement saisissant dans ce récit de l'évangile de Luc. La mère du défunt n'est plus rien pour la société dans laquelle elle vit. Elle était veuve et déjà en cela n'était pas grand-chose, mais la voilà désormais comme orpheline de son fils qui n'est plus. Vous noterez en passant que la langue française n'a pas non plus inventé un mot pour oser désigner l'impensable, celui d'un parent qui perd son enfant. Elle est donc tout à la fois veuve et celle qui porte son fils unique en terre. Seigneur, tu as prévu un chemin de vie pour chacun de nous, une place qu'il nous appartient de saisir à notre manière et de faire nôtre. Tu nous accompagnes dans notre quotidien. Ton esprit est le souffle qui nous met en route dans cette vie. Ouvre-nous à ta présence à nos côtés. Déploie en nous les voiles de la foi pour être poussés par ton esprit. Personne. Personne ne vient interpeller Jésus dans le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Il y a dans les évangiles de nombreux récits de guérison et de miracles. Toujours, ils mettent en scène ceux qui ont besoin de cette guérison ou de ce miracle, appelant Jésus, l'interpellant. L'aveugle Bartimée, au bord du chemin où Jésus passe avec ses disciples, interrompt son voyage en lui criant « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Dans l'Évangile selon Luc, dans le passage qui précède celui que nous avons lu ce matin, l'officier romain, dont le serviteur est malade, envoie des émissaires chercher Jésus. Et même lorsqu'aucune parole n'est échangée pour solliciter Jésus, sa guérison ou son miracle, il y a des gestes qui parlent. Celui de la femme hémorroïs qui touche le bord du manteau de Jésus, celui des quatre porteurs du grabataire qui perce le toit de la maison où se tient Jésus pour y faire descendre la civière et l'homme paralysé. Dans ce texte, personne. Personne ne prononce donc une parole pour demander de l'aide à Jésus. Personne non plus n'esquisse un geste pour signifier sa détresse. la mort a comme emporté jusqu'au dernier souffle d'espoir. C'est Jésus lui-même qui vient rompre cette spirale qui aspire tout. En lui, il y a quelque chose qui se passe. Il est ému par la mère endeuillée qu'il croise sur son chemin. Le texte grec utilise même un mot qu'on pourrait traduire par « il est remué dans ses entrailles ». Alors que le peuple d'Israël est en attente d'un envoyé de Dieu, d'un Messie, qui rétablirait l'ordre et la justice, Luc nous présente un Jésus qui tout simplement est touché par les femmes et les hommes en détresse qu'il rencontre. Alors que nos images de Dieu font de lui soit un Dieu transcendant, lointain, distant, ou alors au contraire tellement proche, immanent, qu'il finit par se confondre avec le plus profond de nous-mêmes, Jésus nous révèle un Dieu à notre hauteur, en face à face avec nous. Un Dieu qui se tient devant nous, capable d'empathie devant notre histoire, remué dans ses entrailles par nos souffrances. Dieu notre Père, lorsque tout se vide autour de nous, lorsqu'en nous le désert s'étend, que plus aucune parole ne vient résonner en nous, tiens-nous debout pour voir ta présence à nos côtés et gonfle nos vies de ton souffle nouveau. Lorsque nous sommes épuisés par tout ce que nous traversons et par tout ce que nous ne vivons pas, lorsque la lassitude l'emporte sur le désir, tiens-nous debout pour voir ta présence à nos côtés et gonfle nos vies de ton souffle nouveau. Lorsque nous nous sentons abandonnés, ou lorsque nous fuyons les autres, incapables de partager avec eux la détresse qui nous emporte, tiens-nous debout pour voir ta présence à nos côtés, et gonfle nos vies de ton souffle nouveau. Lorsque nous nous sentons abandonnés, ou lorsque nous n'osons plus regarder vers toi, lorsque la culpabilité nous condamne, et nous éloigne de toi et de nous-mêmes, tiens-nous debout pour voir ta présence à nos côtés et gonfle nos vies de ton souffle nouveau. Jésus, c'est donc Dieu qui se tient à notre hauteur. Il est l'humain qui se laisse façonner par le souffle de l'Esprit, qui se laisse porter par la parole créatrice de Dieu et qui se laisse toucher par la détresse des femmes et des hommes. Dans les évangiles, les verbes les plus couramment utilisés pour parler de ce que fait Jésus sont « marcher »,« manger », »,« toucher », »,« regarder », »,« bénir », »,« aimer ». Dans l'histoire de ce jeune homme, qui est ramené de la mort à la vie, Jésus ne fait rien non plus d'extraordinaire. Il va vers l'autre, il s'est approché, nous dit le texte. Il esquisse un geste, il toucha le cercueil. Et à ce moment-là, pourtant, le mouvement mortifère de la procession funéraire s'arrête et survient alors la vie au travers d'une parole créatrice. « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Ce que fait Jésus pour redonner la vie n'est rien d'autre que ce qui constitue la vie elle-même. Bouger et être en relation avec l'autre, mais surtout parler, en écho à l'acte créateur de Dieu. Là où la spirale de la mort entraîne tout vers le fond, Jésus ose une parole et des gestes pour remettre debout, pour créer et pour recréer. Si vous relisez le texte, vous serez peut-être surpris de découvrir que le jeune homme ressuscité agit lui-même comme Jésus juste avant. Il bouge en s'asseyant, il parle et il entre à nouveau en relation en étant rendu à sa mère.
À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tu tombes vaincu. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité.
Si le jeune homme qui était mort se relève, il n'est de fait pas le seul dans cette histoire. Il y a bien sûr sa mère, et l'on peut même se demander si ce n'est pas elle qui est au cœur du récit. C'est en la voyant, elle, que Jésus est remué aux entrailles et que s'ensuit la résurrection de ce mort. Elle, qui doublement n'était plus rien en tant que veuve ayant perdu son fils unique, est rétablie dans le tissu social de la vie. Elle est à nouveau une mère. Il y a aussi la foule anonyme qui constitue le funèbre convoi. De foule, au début, elle devient un il au pluriel, un il qui glorifie Dieu à la fin de l'histoire. De la passivité anonyme dans laquelle la mort les a plongés, ils redeviennent un ensemble d'individus capables de chanter les louanges de leur Créateur. Combien j'aimerais être, Seigneur, solide, fiable, fort, endurant, un croyant sans faille, témoignant sans relâche, louant ton nom en toutes circonstances. Combien j'aimerais, Seigneur, dans les moments lourds de ma vie, ne pas rester enfermé sur ma peine ou ma douleur, et rester ouvert sur la vie qui foisonne autour de moi. Comme la foule de ces anonymes devient un peuple de témoins, en voyant le jeune homme ramené à la vie, apprends-moi à discerner ton esprit dans le souffle qui pousse à croire, à espérer et à aimer encore et encore.
Quand le vol de la tempête vient à rassombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.
Bon dimanche à tous, chers auditeurs. Que le Dieu de la vie vous donne la vie en plénitude. Que cette vie jaillisse en vous, pour vous et autour de vous, chaque soir et chaque matin, chaque jour. Amen.
Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, beau soleil.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur Gérald Machabert de l'Église protestante unie de France à Lyon pour la presse régionale protestante. Merci à Viviane Noël et à Benjamin Vignal pour la réalisation, la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez recevoir le texte de cette émission par courrier en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Et bien sûr, vous retrouverez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Restez à l'écoute, je vous retrouve tout de suite pour Culture Protestante et puis le journal à suivre dès 9h.